الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On avait expliqué la dernière fois le verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les êtres humains contre Naran Talabwa, fa anzartukum Naran Talabwa, dont la traduction est je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Et la dernière fois, on avait essayé de citer quelques ahadith qui expliquent, qui donne la description du feu de l'enfer. On a vu la crainte que Jibril alayhi salam, Mikaël alayhi salam eux-mêmes avaient du feu de l'enfer. On avait expliqué également quel était l'aspect, on va s'approcher un peu pour qu'il y ait plus de baraka, inshallah. On a vu également quel était l'aspect de ce feu de l'enfer et la différence avec le feu de ce dunya. On avait vu dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi salam a dit que ce feu a été préparé, a été entretenu pendant 1000 années, jusqu'à ce que ce feu soit devenu rouge. Ensuite, 1000 années encore, jusqu'à ce que ce feu devienne blanc. Et encore 1000 années, jusqu'à ce que ce feu devienne noir. Donc pendant 3000 ans, Allah Ta'ala a fait en sorte que la chaleur du feu de l'enfer s'intensifie sans arrêt. Et cela nous prouve également que les descriptions de tout ce qui a attrait à l'au-delà ne peut être compris par l'être humain. Avec notre logique, notre cohérence, nous n'arriverons jamais à la vérité. Ce n'est pas possible que quelqu'un se dise que moi j'ai l'esprit cartésien, je ne crois que ce que je vois, donc si je comprends, je veux bien y croire. Mais ne me racontez pas des salades, parce que dans la religion il n'y a pas de salade, pas de bread, pas de salade, pas de laitue, rien du tout. C'est pas pour autant qu'on n'est pas végétarien, mais il faut savoir une chose, c'est que dans notre din, il n'y a rien qui se comprend complètement avec le aql. Il n'y a rien qui se comprendra à 100% avec l'intelligence. La plupart des principes de la religion ont été faits en sorte pour qu'ils soient accessibles à l'être humain, et donc compréhensibles. Il y a une part de logique dans chaque action que nous accomplissons. Et puis, il y a une part qui est dans l'autre monde, qui est en relation avec le ilmul ghaib, qui est en relation avec l'invisible. Et ce quota-là, on ne pourra jamais le comprendre avec notre cerveau. Et si nous pensons que c'est uniquement avec notre intelligence qu'on pourra comprendre la religion, et donc, à une fois l'étape de compréhension acquise, on va se mettre à pratiquer, ben jamais on ne pratiquera la religion. Et pour autant, on doit faire bien attention, on ne doit pas se dire que si je ne comprends pas, ça veut dire que ça n'a aucun sens. Na'ouzou billah. Parce que si une personne arrive à cette conclusion que telle chose est incompréhensible de la religion, pourquoi Allah a décidé de ça? Et pourquoi Allah n'a pas rendu telle chose autorisée? Ou pourquoi Allah nous dit telle chose là, alors que dans tel verset c'est contradictoire? Donc je n'y crois pas. Si on arrive à cette conclusion, ce qui est malheureusement un courant un peu nouveau, hein, les gens qui se croient éclairés, qui croient pouvoir comprendre tout, ben, dans ce cas, on s'enlève nous-mêmes du cercle fermé des mu'minines, des gens qui ont la réelle iman dans leur cœur. Car, ça c'est quelque chose qu'on répétera tout le temps, le premier verset du Coran qui décrit le musulman, ce qui a iman, c'est quoi? Alladina yusallun. Non. Allah Ta'ala n'a pas dit dhalikal kitab ou la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah Ta'ala n'a pas décrit al muttaqin, ceux qui ont la taqwa, en disant alladina yusalloun ou yasumoun, qui font la salat ou qui font le jeûne. Non. Allah Ta'ala a dit alladina yu'minuna bil ghaib. La première qualité du croyant, c'est quoi? C'est croire à l'invisible. Et de nos jours, nous vivons dans un contexte où tout nous pousse à ne pas croire à l'invisible. Celui qui fait une action qui n'est pas compréhensible, celui qui fait une action qui ne lui apportera rien en termes de profit financier palpable, on pensera que cette personne, elle est malade, ou alors elle a des troubles psychologiques. Comment elle peut se fatiguer pour quelque chose qui ne lui apporte strictement rien. Tout de ce dunya est fait en sorte pour nous emmener vers un monde où nous allons faire que des choses concrètes et compréhensibles. Et donc, quand quelqu'un s'investit dans le din, on va le considérer comme quelqu'un de marginal. Si on ne dira pas que c'est un intégriste, on dira que c'est un marginal. Quand la période des mouvements est passée, quand il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus de menaces, quand par exemple là en ce moment c'est quoi le gros souci? C'est les problèmes avec, comment on appelle ça? L'inflation, comment on appelle ça? La crise, le terme là. La récession. Là, le problème majeur, c'est la récession. Regardez n'importe quel site internet d'actualité, récession. N'importe quel journal, sérieux, pas, hein, récession, d'accord? Pas de journal qui va mettre à la une quand il y a des petits faits divers, mais des journaux métropolitains, sérieux. N'importe quel journal sérieux parlera de la récession. Le plan d'aide pour les banques en crise, les banques en faillite, etc., etc. Donc là, les gens sont occupés avec la récession. Ils n'ont plus le temps de trouver des terroristes, là. Les professionnels intégristes. Mais quand la période des intégristes est passée, on va dire que c'est un marginal. Quelqu'un, il fait des choses bizarrement. Il a des troubles psychologiques. Vous voyez? Mais les marginaux, le professeur m'a dit qu'un jour, ce type sera pratiqué par des gens qualifiés de fous. Cette religion a commencé, quel est le qualificatif? Bada'a ghariban, wa sayaoudou ghariba, fatouba l'ghuraba. Ce dit, lorsqu'il a commencé, les gens disaient que ça c'est des fous, ça. Le professeur sallam, avant, on lui disait quoi? Al-Amin, l'homme honnête, le véridique. Et quand il a commencé à dire qu'il y a un seul ilah, un seul Allah, qu'est-ce qu'on a dit? Aj'al al-alihata ilahun wahida. Que des versets disent, c'est n'importe quoi, c'est incompréhensible, c'est du n'importe quoi. Lorsqu'il voit Zad Bilal, qui est un esclave, qui est torturé, qui va presque mourir de persécution, et il n'accepte pas de renier ce din. Qu'est-ce que ça l'aurait coûté de dire, khalas, je suis avec vous, Allah Ta'ala, et puis quand il est libéré, et puis il va fuir, il va pratiquer son din? Non. Pour eux, c'est un fou, c'est un malade. Pourquoi il continue à dire ahad, ahad, alors qu'il est, il a deux doigts de mourir? D'accord? C'est pourquoi ces musulmans, ils s'obstinent à pratiquer un din qui les attire que des problèmes. On essaie de tuer le prophète, on n'arrive pas. Mais ils continuent à pratiquer. On les torture, ils continuent à pratiquer. On les met une année, voire plus, dans un endroit, hein, le champ d'Abu Talib, hein, l'embargo, et il y en a qui vont mourir de faim ou manger des feuilles. À la sortie, ils continuaient à pratiquer. Non, ils étaient considérés comme des gens malades. Mais arrivera une époque, et Allah seul sait est-ce qu'on n'est pas déjà en train de le vivre, ou quelqu'un qui veut rester ferme de son dîme. Quelqu'un qui sait que mon succès, c'est dans la pratique du dîme, ben on va dire que c'est un marginal, c'est un fou. Mais peu à peu, vous allez voir que cette époque arrivera. Vous voyez? Donc, on était à ce verset. Subhanallah. Voilà. On est en train d'expliquer donc que ce feu du Jahannam, pendant 1000 ans, il a été attissé jusqu'à devenir blanc, le rouge, puis blanc, puis noir. Et lorsqu'on décrit comment Jibril, Mikaël, les anges eux-mêmes, parce qu'on a dit pourquoi Mikaël ne m'a jamais souri. Jibril dit que depuis que Mikaël a vu le Jahannam, il n'a plus jamais souri, tellement il a été choqué par la vision du feu de l'enfer. Mais quand on entend ce genre de verset, ce genre de récit, et qu'on entend qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Allah dit aux musulmans, Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum, protégez-vous et protégez vos familles d'un feu. Et Allah dit que le combustible de ce feu, c'est quoi? An-nas, les gens. C'est-à-dire, j'allais dire vous et moi, na'udhu billah, des gens comme vous et moi, c'est eux, à la place du charbon, à la place du zip, à la place des produits, c'est les êtres humains et les pierres qui vont attisser, qui vont entretenir le feu du Jahannam. Et quand quelqu'un dit que voilà, il y a l'épidémie de choléra au Zimbabwe, pourtant quelle distance Zimbabwe et la Réunion? C'est très loin. Et si quelqu'un, imaginez demain, si quelqu'un de l'OMS ou un médecin dit qu'il y a 0,1% de chance pour que le choléra arrive à la Réunion, soit par un coup de mascarène ou une dépression, le vent, ou je ne sais pas, enfin Internet, c'est pas possible, mais il y a 0,1% de chance que le choléra arrive à la Réunion, et que par précaution, le ministère de la Santé a mis à disposition des Réunionnais les vaccins contre le choléra, mais je vous assure qu'il n'y a aucun risque. 0,1%, c'est tout. Je vous assure de mettre tout le monde dans la pharmacie, s'acheter le vaccin, se vacciner au Anfusakum, vacciner madame et les enfants, Wahlikum, choléra. Parce que ça, cette maladie-là, on a vu les images, on a vu des cadavres, on a vu des gens mourir, on a vu des gens souffrir. Quand on voit, on croit. Mais lorsqu'Allah il décrit la punition des gens de l'enfer, quels seront, comment il y aura du pu versé dans leurs oreilles, comment il y aura, a'oudhu billah, qu'Allah nous protège, tel châtiment, pourquoi on n'a pas peur? Pourquoi on n'est pas dans le cas de ce sahaba qui se retourne le soir, il ne peut pas dormir, pourquoi? C'est pas parce qu'il a regardé un film d'horreur comme nous, hein. C'est pas parce qu'il a entendu telle chose, c'est parce qu'il pense au jahannam. Il n'arrive pas à s'endormir. Quelle est la différence? Alors que ces cinq namaz, c'est nos cinq namaz. Son zohar, c'est quatre rakats, mon zohar, c'est quatre rakats, mon faraz, c'est son faraz, c'est pareil. Il n'y a pas un ramadan en plus pour lui ou pour moi. C'est iman, la croyance en Allah. Lui, il a ilmul ghaib. Il n'a pas ilmul ghaib. Il a iman bil ghaib, pardon. Lui, il croit en l'invisible. Si on lui montre le jahannam, on lui montre jannat, khalas, c'était déjà acquis ça. Il y croyait déjà. Parce que l'effort a été fait sur iman. L'effort a été fait sur iman. Et ce iman-là est tellement fort que lorsque Hazrat Omar il voit un prisonnier qui va boire, ça boit du poison, Omar il prend, bismillah, il sait que ça lui fera rien du tout. Mais nous, on n'a pas à faire ça, on ne doit pas le faire, d'accord? Comprenons bien que le iman a atteint un tel degré que c'est comme si qu'ils pouvaient être coupés du monde réel, tellement ils avaient un degré de iman. Vous voyez? Donc on revient au tafsir de ce verset. Ensuite, Allah Ta'ala dit La yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Allah Ta'ala dit, on lit la traduction parce que je ne vais pas amener la traduction de moi-même. Allah décrit ce feu où ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos. Bon. Dans ce verset, Allah Ta'ala il fait comprendre que pour ce feu est destiné à une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas cru au prophète et qui n'ont pas voulu pratiquer. Maintenant, je préfère le dire, il est possible qu'une personne un jour ouvre un Coran en français et il lit ce livre, il lit ce verset. Il dit, ah bon, Allah dit, je vous ai donc averti d'un feu qui flambe où ne brûlera que le damné, c'est-à-dire quelqu'un qui était condamné, prévu pour l'enfer, qui dément et tourne le dos. Ah bon, ben, ça veut dire que celui qui ne dément pas et qui ne tourne pas le dos, comprenez que celui qui ne refuse pas de croire en Allah, en son prophète, et qui ne refuse pas de mettre en pratique les ahkam, les ordres d'Allah et de son prophète, donc lui, il ne goûtera pas ce feu. Parce que littéralement, ça veut dire ça. Je sais, c'est un peu technique ça, hein, mais on arrive à une époque où les gens aussi, ils vont un peu loin aussi. Avec Internet, tout ça, ils ont l'impression d'apprendre, ils ont l'impression d'aller vers la connaissance, mais ils n'ont pas les outils. Donc littéralement, c'est comme si ce verset disait que ce feu-là, c'est que pour les koufars. Et ce masque-là a été évoqué réellement par certaines personnes à l'époque, certains murji'a. Ils disent que ben, ce ayat, selon eux, tout le monde a un niveau de iman égal. Et à partir du moment où on a iman, on n'entrera pas dans le feu de l'enfer. Ça, c'était une taïfa qui existait à une époque. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est comment, par exemple, Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, avec la science qu'Allah lui a donnée, il trouve les réponses adéquates à une personne qui oserait dire que le feu de l'enfer est réservé uniquement aux koufars. Déjà, quand il dit « nar antalava », il dit qu'il y a différents degrés de feu de l'enfer. Peut-être que ce « nar antalava », ça, c'est peut-être réservé à cette catégorie de personnes. Mais il y a peut-être d'autres catégories de feu qui sont réservées à ceux qui ont iman, mais qui ont accompli une certaine quantité de mauvaises actions. Alors, comme on a dit qu'on va faire très court ce soir, on ne va pas entrer dans un grand débat, mais retenons une chose, parce qu'il faut toujours retenir la chose qui nous sera profitable et on pourra mettre en pratique, pas juste des paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrivait la shafa'a, l'intercession, il disait qu'au départ, il va intercéder pour que le hisab, pour que les comptes commencent. Ensuite, il y a l'intercession pour laquelle il demandera là aussi l'autorisation d'Allah pour certaines catégories de musulmans. Et puis à la fin, quand il ne reste plus personne, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour des ahlul iman, soit des musulmans qui seront déjà dans le feu de l'enfer. Des gens qui auront déjà goûté le châtiment du feu de l'enfer, et le prophète sallam ira les chercher, et le prophète sallam il décrit que lorsque ces personnes sortiront de l'enfer, le mot en arabe c'est waqadim tuhijou, ils seront déjà carbonisés, qu'Allah nous protège. Ce sont des gens qui ont iman, mais qui à cause de leur péché ils sont entrés en enfer, et que le temps que le hisab se déroule, combien de milliers d'années, et que Allah ta'ala donne l'autorisation au prophète sallam d'aller chercher finalement cela aussi, pour qu'il n'y reste plus personne qui a un atome de iman et qui est dans le feu, le prophète décrit que c'est des gens qui seront déjà complètement carbonisés par le feu de l'enfer, et puis là, ils vont se baigner dans un fleuve du paradis, et puis on connaît là la suite du hadith. Mais qu'on comprenne bien que jamais qu'une personne n'ose dire que le jour de Qiyamah, puisque ça, malheureusement, j'ai déjà entendu ça de la bouche de certaines personnes, ça aussi c'est grave, dit que Allah est tellement rafour, tellement rahim, tellement généreux, tellement clément, que mes messieurs, je vais un matin, il va dire, tout musulman rentre dans le jannah, direct, personne n'a pas fait ça. Allahu Akbar, on aimerait, j'aimerais tout le monde, est-ce que quelqu'un dira, ah non, pas comme ça, c'est pas juste, non, non, personne ne souhaiterait le contraire, mais les textes prouvent que c'est pas le cas. Et si c'était comme ça, d'accord, quel intérêt à s'éloigner du haram? Et est-ce que cela correspondrait à la tribu de Al-Adl, qu'Allah Ta'ala il est Adl et Hakam, Allah Ta'ala il est juste. La justice d'Allah c'est quoi? C'est que la personne qui s'est abstenue du haram pendant 50 ans de sa vie, 60 ans de sa vie, et qui a tout fait pour obéir à Allah, faire passer l'ordre d'Allah devant ses plaisirs, et celui qui a tout eu dans ce dunya, il a vécu comme un roi, discothèque, l'alcool, zamal, drogue, les femmes, tout, et puis vous croyez qu'il sera avec vous dans le jannah, allons, nous entrons ensemble? Ça, c'est pas la justice d'Allah. Vous comprenez? De la même manière qu'une personne qui a vécu dans ce monde avec les biens de ce monde, les richesses, même si elle donnait fi sabilillah, et la personne qui était pauvre de ce dunya, ça que j'ai expliqué au moins deux fois, ben, ils ne seront pas au même niveau dans le paradis. Parce que le pauvre musulman, pas le pauvre musulman, le musulman pauvre, pas le pauvre musulman, le musulman, eux, ils essaient de nous faire croire que pauvre musulman ne comprennent rien à la vie. Les musulmans pauvres auront un degré toujours supérieur aux musulmans riches. Mais là, on peut mettre les deux ans. Riche musulman, ça oui. Le musulman est toujours riche, d'accord? Le musulman qui, dans ce dunya, a connu les difficultés de la pauvreté, il aura un rang supérieur à une personne qui avait iman comme lui, mais qui avait les biens de ce monde. Ça aussi, ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Voyez. Donc ça c'était une petite parenthèse pour qu'on comprenne bien que la justice d'Allah c'est que il y a le azab, maintenant tout dépend de ce qu'il y a dans les cœurs. Allah Ta'ala jugera chacun en fonction des actions qu'il y a dans ses cœurs, de son intention. Il est possible que pour un même péché accompli, Allah il pardonne à celui-là et Allah il punit celui-là. Vous voyez le hadith de Afsala, la personne qui abandonne Afsala, à la fin qu'est-ce que le prophète dit? Insha'a azzabahu wa insha'a ghafarala. Si Allah Ta'ala il veut, il le pardonne. Si Allah Ta'ala il veut, il punira cette personne. C'est-à-dire, Allah il connaît ce qu'il y a dans les cœurs, les circonstances, et ça, c'est de l'ilmullah. Ça, c'est Allah seul qui connaît. Personne n'a le droit de dire oui, mais lui, bon, lui mauvais, lui c'est munafir, lui c'est bouzrouk. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Parfois, ça sort de la bouche, c'est un bouzrouk, c'est un bouzrouk, c'est un mukar. Personne ne sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ça, c'est uniquement Allah qui connaît. Vous voyez? Donc, il reste 20 minutes. On a dit 20, 30 minutes, Inch'Allah. Peut-être 25. Donc, لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. طيب. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Ensuite, Allah Ta'ala dit que alors t'en sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier. طيب. Les ulama, les mufassirin, rahimahumullah, ils sont unanimes sur le fait que ce verset est destiné pour Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'Allah Ta'ala décrit wa sayjannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, ce verset est khas, il est spécifique pour Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Que n'en déplaise à certaines catégories de personnes dont on ne citera pas le nom, qui selon eux non, ce verset est destiné à Hazrat, vous compris, destiné à Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. D'accord? Les ulama sont unanimes que Abu Bakr, radiallahu anhu, c'est lui le maqsoud dans ce verset. Et une des raisons, on ne va pas entrer dans les grands débats aussi, mais une des raisons, c'est le verset qui vient ensuite. Le verset qui vient ensuite, est-ce qu'il est arrivé? Parce qu'on va revenir là-dessus. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Dans ce verset, Allah Ta'ala explique que cette personne-là qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Et celui qui avait vraiment consacré sa fortune tout entière pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son prophète, c'était qui? C'était Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu ta'ala. Parce qu'à l'époque où le prophète sallam a commencé la propagation de l'islam, qui était son compagnon? Abu Bakr. Qui était Thani Athnaïn Idhuma Filhar? C'était Abu Bakr. Alors que Hazrat Ali était encore un enfant. Hazrat Ali était encore un enfant, donc il ne peut pas être l'objet de ce verset du Coran que la personne qui a donné sans vouloir de contrepartie en ce sens. Ça ne pouvait être que Abu Bakr, car à cette époque, Ali radiallahu ta'ala était encore sous la responsabilité du prophète sallam. La raison était qu'il était dans le tarbiyah du prophète sallam, car le prophète avait pris Hazrat Ali avec son père, et le prophète lui donnait à manger, le prophète lui donnait ses vêtements, etc. Donc c'est le prophète qui s'occupait de Ali, alors qu'Abu Bakr faisait le khidmat du prophète sallam, et le khidmat du din avec ses biens et avec son corps. Donc ce verset, retenons, là encore, c'est un des versets encore qui prouve la supériorité incontestable d'Abu Bakr al-Siddiq sur tous les êtres sahaba et sur tous les êtres humains. Et cette supériorité, on va le voir encore à la fin du verset. On va faire un peu plus vite parce qu'on veut terminer Wallahi ce soir, Inch'Allah. Et concernant la manière qu'Abu Bakr al-Siddiq dépensait ses biens dans le chemin d'Allah, là aussi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Regardez juste la bataille de Tabouk lorsqu'il a amené tous ses biens. Ça, c'est vraiment typique d'Abu Bakr. Et que Omar, lorsqu'il y avait la bataille de Tabouk, s'était dit que s'il y a bien un jour où je vais dépasser Abu Bakr, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui je n'ai pas dépassé dans ses bonnes actions, c'est fini. Alors Omar a amené la moitié de ses biens en pensant que khalas, c'est lui le meilleur. Lorsqu'il y avait Abu Bakr, a amené tout. Mais quand on dit tout, c'est la totalité. Et le prophète dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Je laissais Allah et son prophète. Omar a compris que khalas, jamais plus de la vie, jamais plus je ne vais même penser à dépasser Abu Bakr dans l'accomplissement des bonnes actions. Voyez? Alors, concernant la manière de dépenser les biens, voyez? Alors, c'est un petit commentaire, ça c'est intéressant. Il dit qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de biens. Mais ces gens-là, ils sont tellement avares que parfois on voit que même avec leur propre famille, ils sont avares. Moi, je connais quelqu'un, un jeune, il a peut-être 18 ans comme ça, il me dit que mon père, il ne s'occupe jamais de moi. Il dit, c'est une fois dedans, une fois dans l'année, il m'a amené manger une pizza, il dit, ben, prends le moins cher, c'est-à-dire prends le margarita, et pas prends le pizza Cameroun, c'est-à-dire prends le 8 euros, prends pas le 12 euros. Il a dit, une fois de l'année, il m'amène manger la pizza. Il dit que prendre, mais prends le moins cher. Ça, c'est un exemple. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à leur bien, pour leur propre corps, ils ne sont pas prêts à se faire plaisir. Et ça, c'est une maladie, ça. Parce que cet argent-là, là, s'il était intelligent, il va laisser pour qui? Hein, il a 50 ans. Il meurt dans 12 ans, dans 13 ans, dans 20 ans. Il n'aura jamais, il n'aura pas joui de ses biens. Il va de toute façon, on ne l'a pas d'aller le pizza, mais demain, on ferme les yeux. C'est lui-même qui aura. Il n'aura pas une pizza de différence 3 euros. Il aura ton 1,5 million d'euros, ce sera pour lui. D'accord? Donc ça, c'est maladif. Ça, c'est un piège de shaitan. Ça, c'est un de dunya. Voyez? Donc, ça, c'est un extrême. Et puis l'autre extrême, là, n'est pas trop en rapport avec les tafsirs, hein, c'est des gens, et ça, c'est mu'as, c'est en relation avec notre époque. Des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Des gens à qui Allah n'a pas donné les moyens, mais ils essaient de vivre au-dessus de leurs moyens. Et c'est ça le grand piège de notre société. La société de consommation. Continue, hein, on ne s'arrête pas avec la première consonance. La société de consommation. Regardez toutes les publicités dans la rue. Les offres, quoi, tout vous pousse à acheter. Achetez maintenant, 0 euro d'apport, acheté en 2008, payé en 2009. Il y a même dans certaines sociétés, vous achetez une voiture, 0 euro d'apport, ils vous donnent un chèque de 2500 euros, cash. Mais qui refuse ça? Elle dit, attends, mais gagne tout neuf, 0 km, d'accord? Je paye à partir de 2009, on me donne 2500 euros, mais gagne fait mon, je ne parle pas pour les musulmans, je fais mon Noël, mon réveillon, mais gagne Maurice, une semaine, l'hôtel 5 étoiles de revenir, et qui c'est qui refuserait ça? Mais après, les dettes. On est dans cette... Et qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à cette situation de crise, surtout dans certains pays outre-Atlantique? C'est quoi? C'est que les gens, ils prennent des crédits sur 25 ans. Ils n'ont pas le moyen de s'acheter une maison. Mais ils vont prendre un crédit de 25 ans. Et puis lorsqu'ils ne peuvent plus payer, qu'est-ce qui se passe? La banque reprend le bien. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a des populations entières qui habitent dans leur voiture. Et ça, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est-à-dire riba. Quand l'islam a dit que vivez selon vos moyens, et que si quelqu'un il prend de l'argent emprunté qui n'a pas l'intention de rendre, Allah détruit ça. Et que l'islam a interdit la spéculation. Ne vendez pas quelque chose que vous n'avez pas encore acheté. Mais c'est pour ça que cet économiste, on avait cité la fois du Jumaa, il dit que si l'Occident avait suivi le modèle de la charia, du Coran, jamais on ne serait arrivé à cette situation. C'est pourquoi les pays du Golfe, ils s'en sont bien sortis de cette crise. Ils n'ont pas connu parce que l'intérêt était interdit dans le système financier islamique. Donc, ils n'ont pas connu ces difficultés. Voyez ? Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet exemple. On va clore le surat, Inch'Allah. On a 28 minutes, reste 2 minutes. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. On a vu que cela concerne Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu. Et justement, pour parler des dettes, parce que de nos jours... Moi, j'ai discuté avec une personne, un musulman qui a beaucoup de motivation. Hein, je ne me trompe pas, c'est un converti, alhamdoulilah. Mais il a beaucoup de motivation pour pratiquer, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui se convertissent. Et puis, il m'a dit que voilà, bon, il doit faire un emprunt, comment il faut faire pour acheter une maison. Je lui ai dit que, mon frère, on n'a pas le droit d'emprunter. Il dit non, mais avec telle maison de crédit immobilier. Je lui ai dit, mais c'est pareil, ça c'est bonnet blanc, blanc bonnet. D'accord? C'est comme si qu'il y a eu changement de propriétaire, mais c'est un hila, c'est une tromperie pour retomber dans l'intérêt. Il m'a dit, mais comment je fais? Je lui ai dit, ben, fais comme moi. Moi, je n'ai pas les moyens. Moi, je paye le loyer. Il a dit que non, ce n'est pas possible. Il a dit, c'est inconcevable de payer un loyer. 80% de mon salaire ne peut pas partir d'un loyer. Non, il faut que j'achète. Je lui ai dit, écoute, si tu as iman en Allah, et si tu as la crainte d'Allah, n'achète pas. Parce que tu n'as pas les moyens. N'entreprends pas un crédit, mon frère. Vis avec 500 euros de dépenses, mais vis dans le halal. C'est mieux pour toi que de vivre avec 1000 euros de dépenses, mis à part les impôts, les taxes, que 1000 euros que tu vas jouir, mais que de le haram, et que chaque euro dépensé, c'est un euro qui te rapproche du feu de l'enfer. En sachant que lorsque la tête du Coran, subhanallah, ce verset de lequel la tête dit que celui qui a accès à l'intérêt, hein, c'est comme si il a déclaré la guerre à Allah et son prophète. C'est comme si qu'il a déclaré la guerre à Allah et son prophète. Et regardez comment les dettes, ça il faut éviter au maximum. Ça c'est vraiment, on est dans une difficulté, mais il faut éviter au maximum les dettes. Vous voyez? Car le prophète, et ça sera la dernière parole, le prophète dit, vous savez, hadith lequel, lorsqu'une personne est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait, est-ce que cette personne a des dettes? Et si on disait que oui, il a des dettes, et le prophète dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour régler ses dettes? Si on disait que non plus, le prophète dit, sallu ala sahibikum. Faites la salade sur votre compagnon. Parce que ne faisait pas la main de janaza pour quelqu'un qui meurt avec des dettes et qui ne pourra pas rembourser. Il n'y a personne pour s'acquitter de ses dettes, mais il n'a pas laissé d'héritage. Et on sait également que lorsqu'une personne meurt dans le chemin d'Allah, tous les péchés de cette personne sont pardonnés à l'exception des dettes. Parce que les dettes, ça c'est quoi? Ça c'est chakouk ou nas. Ça c'est le droit des gens. Donc on finira avec ça, Inch'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَمَا لِيَحَدِلْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّ الْعَالَى. On avait vu ça, que c'est qu'Abu Bakr, lui, lorsqu'il dépensait dans le chemin d'Allah, c'était avec sincérité. Il ne voulait pas une compensation. Le Prophète m'a dit que tous les Sahaba, on les a déjà donnés. C'est comme si qu'avec les butins et autre chose, ils ont été, on ne dirait pas compensés, mais ils ont eu des biens, l'islam les a donnés, sauf Abu Bakr. Ce qu'Abu Bakr a donné pour le dîn, Allah seul pourra lui rendre. Ça, c'était la supériorité incontestable d'Abu Bakr sur n'importe quel autre sahaba. Et le surat, hein, comme il parlait d'Abu Bakr, il se clôture sur un verset concernant Abu Bakr. Wala saufa yarda. Wala saufa yarda, ça veut dire il sera satisfait. Hein, comment ils ont traduit? Et certes, il sera bientôt satisfait. Et Mufassirin disent également que ce verset concerne les sahaba, bien sûr, mais il concerne spécifiquement Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr, il a cette spécificité du jour du Qiyamah, c'est que toutes les portes du paradis inviteront Abu Bakr. Parce qu'on m'a dit que dans le paradis, il y aura telle porte pour telle action, telle porte pour telle action. Hein, le paradis a combien de portes? 8 portes. Et l'enfer a 7 portes. Hein, et que chaque porte correspond. Par exemple, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan pour les jeûneurs. Et Aboubakar dit au prophète d'Allah, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra accéder par toutes ses paroles? Il dit oui, ou Aboubakar, et j'espère que ce sera toi. Et les ulama disent que c'est le seul qui a eu la promesse qu'il sera invité par toutes les portes du paradis. Est-ce que c'est pas ça le plus grand succès? Voilà, le plus grand succès, c'est d'être riche, d'être célèbre, d'avoir des grands diplômes. Ou que je dois être Yamad devant l'humanité tout entière, toutes les portes du paradis appellent quelqu'un. C'est pas le Mujahada qu'il a fait dans le chemin d'Allah. Qu'Allah t'en tawfiq de comprendre. Après, mashallah, beaucoup de temps, on a pu compléter le surat Walayl ila Yasha, surat comme tous les surats du Coran. J'allais dire surat très riche en akhbar, mais comme tous les surats du Coran qui commencent par la grandeur d'Allah dans la création de la nuit, le jour, etc. La création de l'homme, la création de la femme, etc. etc. Et lorsqu'Allah t'a dit ensuite la Shatta, il y a deux, vos chemins sont différents. Il y a ceux qui prennent le chemin de droit, il y a ceux qui prennent le chemin de gauche, et en finalité, celui qui a pris ce chemin, il aura telle chose. Celui qui a pris ce chemin, il aura telle chose. Il a compris à travers ça qu'Allah Ta'ala a écrit nos actions, mais en même temps, Allah, il nous laisse le choix. Qui choisit le chemin de droit? Qui choisit le chemin de gauche? On a vu avec l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq, c'était l'homme le plus droit, le plus correct, et il aura la plus haute récompense de la part d'Allah, je de Qiyam. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de comprendre la réalité de ce verset, de ce sourate qui résume la vie du musulman tout entier, et de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos soeurs à la maison. Ma tawfiq illa billah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.